Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Titulaire à Toulouse de la tribune de l'orgue de Notre-Dame du Thor, l'organiste Jean-Claude Guidarini, suite à une longue maladie, s'est éteint ce vendredi saint. Tout au long de ces dernières années, je l'ai souvent reçu, tant à ce micro d'immersion qu'à celui de l'émission musicale Note de Passage. En ce printemps 2020, il préparait encore une nouvelle saison de ses temps musicaux de Notre-Dame du Thor, bien connu des fidèles, des amoureux de l'orgue et des Toulousains, de Pâques à la Trinité. Pour en parler, à la mi-mars, nous devions nous rencontrer chez lui. Le confinement brutal ne nous l'a pas permis. Je vous propose aujourd'hui de réécouter une immersion réalisée en 2015 à la tribune de Notre-Dame du Thor. In memoriam, Jean-Claude Guidarini. Jean-Claude Guidarini, nous sommes ici à la tribune de l'orgue de Notre-Dame du Thor, dont vous êtes organiste titulaire depuis, vous me disiez, que vous étiez le plus ancien de la paroisse.
Oui, 1989, et peut-être un des plus anciens titulaires de Toulouse aussi, avec peut-être mon confrère des Dominicains.
Donc vous êtes ici chez vous à Notre-Dame du Thor.
Oui, en quelque sorte, oui. Chez le bon Dieu.
Vous êtes organiste titulaire. Quel est le rôle et quelle est la mission ? D'abord, est-ce qu'il y a une mission de l'organiste ?
Oui, tout à fait. C'est d'abord, avant toute chose, l'accompagnement des cérémonies religieuses, messe, mariage, funérailles, tout ce qui peut se passer dans la paroisse. Chaque cérémonie où l'on chante et donc qui peut nécessiter un accompagnement. Ensuite, c'est assurer aussi l'entretien de l'orgue. Alors, c'est pas l'organiste qui le fait, quoique, comme l'orgue est assez ancien ici et n'a jamais été restauré, on a souvent besoin d'aller mettre les mains dans le cambouis, si j'ose dire. C'est effectivement veiller à l'entretien, appeler le facteur d'or quand il y a besoin de faire des choses. Voilà, et puis, de manière un peu plus occasionnelle, promouvoir aussi le côté culturel de l'orgue, c'est-à-dire organiser des concerts, le faire vivre, le présenter à des jeunes, à d'autres organismes. Toulouse est une ville très riche en orgues, donc il y a beaucoup d'étrangers qui viennent voir les orgues. Et donc la mission de l'organisme, c'est aussi de présenter, de faire connaître son instrument.
Vous connaissez tous les coins et tous les recoins de cette église. Vous êtes en relation également avec toutes les personnes, alors les membres du clergé, les laïcs qui sont au service et de la liturgie, de l'accueil. Vous êtes en relation avec eux ?
Oui, tout à fait, oui. Surtout avec le clergé et les animateurs de chant. Les gens de l'accueil, je les rencontre occasionnellement, mais nous avons de bons rapports, très bons rapports même.
Pour accompagner la liturgie, est-ce que l'organiste se doit automatiquement d'avoir la foi ?
Je pense qu'il y a beaucoup d'organistes qui ne l'ont pas forcément. Ça peut être un plus si on adhère à ce qui se passe en bas. On peut peut-être mieux coller à la liturgie que quelqu'un qui arrive, qui joue ses pièces et qui accompagne ses chants et qui repart.
Jean-Claude Guidarini, est-ce que vous avez cheminé ? Est-ce qu'il y a des rencontres qui vous ont marqué depuis que vous êtes ici organiste à Notre-Dame du Thor ?
Ici, je dirais le père Barbaste, qui était curé donc, à l'époque où je suis arrivé à Notre-Dame du Thor. Autrement, parmi les gens d'église qui m'ont marqué, je me souviens d'un frère dominicain dans une église à Florence, avec qui j'avais pris beaucoup de plaisir à parler. Alors j'allais là-bas pour jouer de l'orgue, j'étais en vacances dans ma famille, et en fait je jouais un petit peu d'orgue et je parlais beaucoup avec lui, et aussi avec le frère André Gouze de Sylvanès, où j'avais été là-bas aussi pour quelques remplacements. J'avais aussi pris beaucoup de plaisir à parler avec lui.
Et vous parliez de tous les sujets, de la musique, de quoi vous parliez plus particulièrement ?
Un petit peu de tous les sujets, de la musique liturgique, du rôle de l'Église aussi. Il a des idées très intéressantes sur ce thème-là, qui sont peut-être un petit peu avant-gardistes, mais c'est peut-être pour ça que c'était très intéressant aussi.
Ces concerts se font bien sûr en lien avec la paroisse de Saint-Sernin et avec son pasteur, le père Vincent Gallois, pour qui ces moments musicaux sont aussi la rencontre entre l'art et la foi, entre la musique et la liturgie. Après le carême, si sévère pour l'orgue, le déploiement de la joie pascale libère toutes les possibilités de l'instrument et permet à celui-ci d'exprimer toutes ses couleurs.
C'est un des aspects de ma mission, de la mission que l'archevêque m'a donnée, de faire dialoguer l'art et la foi dans les églises, spécialement de Saint-Sernin et de Notre-Dame-du-Thor, au centre de la ville. Alors, à Notre-Dame-du-Thor, on a inauguré un cycle de concerts, de moments musicaux, on les appelle ainsi, les moments musicaux de Notre-Dame-du-Thor, qui célèbrent un temps liturgique, avec les ressources de l'orgue. Et c'est véritablement une volonté de coller au temps liturgique. Alors, les concerts que l'on va proposer le temps de l'Avent sont des concerts qui nous mèneront vers Noël, et on évite de faire des concerts de Noël en avant. Et pour le temps pascal, les concerts que l'on propose sont des concerts qui vont exprimer quelque chose de la joie de Pâques.
Alors, il y a des rencontres entre l'art et la foi qui sont des moments ponctuels, peut-être avec des rencontres, avec des expositions, avec des artistes plasticiens. Les organistes, c'est peut-être une rencontre, je dirais, au quotidien. Ils sont à la fois dans le monde, mais ils sont également, leur rôle, leur fonction, c'est d'assumer la liturgie. Ils sont peut-être à la charnière entre le cultuel et le culturel.
Alors, l'organiste, surtout à Toulouse, c'est un professionnel. Un musicien professionnel et il nous aide de son conseil dans l'élaboration de la liturgie. Alors l'organiste est souvent attentif à la qualité musicale des pièces qui seront jouées, à la qualité, et il a souvent un rôle critique par rapport aux chants que nous mettons ou que le répertoire traditionnel peut proposer, ou habituel, c'est pas un répertoire traditionnel. Et donc il a vraiment un rôle de conseil. Moi je ne suis pas musicien, je suis un peu mélomane, mais je ne suis pas musicien. Donc et véritablement, ici Jean-Claude Guidarini, à Saint-Sernin, Michel Bouvard, ou bien l'un de ses assistants, nous aide véritablement à faire de bons choix ou de meilleurs choix en matière musicale, pour la liturgie spécialement. Puis aussi, ils ont un rôle d'aide pour l'ensemble des questions musicales qui peuvent se poser.
Qu'ils viennent par passion pour l'orgue, par amitié pour l'organiste ou pour trouver là un temps de recueillement ou d'apaisement, tous ces mélomanes, paroissiens ou simples passants, sont sensibles à la dimension sacrée que l'instrument porte intrinsèquement en lui-même.
Je dirais que l'orgue est l'instrument sacré par définition. C'est écrit dans les actes de Vatican II. Aujourd'hui, il le reste encore, bien que la liturgie s'ouvre aussi à d'autres instruments.
Père Vincent Gallois.
Alors, instrument divin, je ne sais pas, mais en tout cas, instrument liturgique, clairement. Il est certain que l'orgue a une grande place dans la vie de l'Église, a une grande place dans la liturgie. D'ailleurs, il y a un très beau rituel de la bénédiction de l'orgue. Lorsque ceux-ci sont construits et affectés au culte, il y a un très beau rite. Et j'invite chacun à un jour à participer à une pareille bénédiction par l'évêque, parce que l'orgue répond justement à la prière et à la bénédiction de l'évêque. Alors, c'est vrai que c'est un instrument qui a une large place dans la liturgie, et c'est normal aussi, puisque ces instruments sont dans nos églises, et bien que ces instruments servent pas simplement pour la liturgie, mais que le répertoire qui a été composé sur ces instruments, souvent en lien avec la liturgie, mais pas seulement, et bien se déploie dans des moments musicaux, comme nous essayons de le proposer à Notre-Dame-du-Thor.
Et pourtant, Jean-Claude Guidarini, au départ, l'orgue n'avait pas vocation à accompagner la liturgie.
Je raconte qu'on en jouait dans les cirques à Rome, pendant que justement les chrétiens se faisaient croquer par les lions ou autres charmants supplices. Peut-être même avant ça, pense que dans les pays arabes où il y avait des choses équivalentes, et puis il y avait aussi l'orgue à bouche des Chinois, qui est un instrument aussi avec plusieurs tuyaux, avec un clavier sommaire, et dans lequel on souffle avec sa bouche, d'où le nom d'orgue à bouche.
Alors comment l'orgue s'est retrouvé ici dans des églises en Europe occidentale ?
Je pense tout simplement parce que c'est le seul instrument qui est capable de remplir une nef d'église, à plus forte raison une nef de cathédrale. Il y a la puissance que n'ont pas les autres instruments.
Le premier concert de ces moments musicaux va bientôt débuter. Et là, je suis dans l'église. Les mélomanes ou les passants arrivent peu à peu. Et je suis à côté de qui ?
Claudine.
Claudine, vous êtes rentrée dans l'église du Thor pour écouter ce concert ?
Voilà, oui, pour écouter le premier concert. Ça nous fait une sortie, une sortie musicale. Je trouve que c'était une très bonne initiative pour faire reconnaître l'orgue à Toulouse, oui, au centre-ville comme ça. Hein.
Et de façon générale, vous allez à des concerts ?
Oui, oui, au festival d'orgue, même on participe à des sorties. Et le dimanche, le premier dimanche, à l'Institut catholique.
Philippe Reynaud.
Et vous êtes un habitué de la paroisse du Thor ?
Oui, nous sommes habitués à la paroisse du Thor. Nous sommes normalement sur Saint-Hilaire, mais nous fréquentons le Thor
et
Saint-Cernin éventuellement.
Et nous sommes des fans de Jean-Claude Guidarini, qui avait déjà organisé l'année dernière cette suite de concerts, et aussi de Toulouse les Orgues. Donc dès qu'il y a un concert d'orgue, en général, on essaie d'y venir.
Donc vous n'êtes pas arrivé ici par hasard ?
Voilà, non, pas du tout par hasard. On a eu l'information sur Internet. Et...
Qu'est-ce que vous venez chercher aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous attendez de ce concert, hein ?
Non, on attend simplement un moment musical intéressant et en général c'est de toute beauté, donc on n'est pas déçu. Et puis après, bon, on enchaînera par la messe du soir et voilà.
Et on pourrait dire que c'est à la fois un moment culturel et puis aussi un moment
de recueillement.
Ça apporte un moment de bonheur et de sérénité. Voilà, on a besoin de laisser cette passion du consumérisme maintenant effrénée et de se ressourcer. Voilà.
Alors Jean-Claude Guidarini, cet orgue de l'église Notre-Dame du Thor, c'est un orgue Puget. Et je crois que vous vivez depuis longtemps dans l'intimité de cette dynastie Puget. Vous aviez présenté il y a quelques années, si je me souviens bien, une exposition au cours d'un festival de Toulouse-les-Orgues.
Oui, tout à fait. Faut dire que depuis que j'ai commencé à jouer de l'orgue, j'ai toujours joué des Puget. Donc ce sont des instruments que j'ai appris à connaître et à aimer. Et ensuite j'ai rencontré la famille, puisqu'il y a toujours des héritiers. La manufacture n'existe plus depuis 1960, mais il y a toujours le fils du dernier facteur Puget, qui est Maurice Puget, qui est vivant. Et donc je les ai rencontrés, ils m'ont laissé l'accès à toutes les archives. Donc effectivement, et puis je cherche aussi de mon côté, parce qu'on trouve toujours des choses. Et voilà, c'est un sujet qui me passionne.
Il faut préciser que c'est une famille, c'est une dynastie de la région.
Tout à fait, qui était installée à Toulouse, hein, qui a été active entre, on ne sait pas trop quel était le début, vers 1840, hein, et donc qui s'est éteinte, comme je le disais, en 1960.
Est-ce que c'est une dynastie ? Est-ce que ce que vous trouvez, ça vous interroge toujours ? Ça vous questionne en permanence ?
Oui, parce que c'était des gens qui, d'abord, qui étaient autodidactes, et donc qui ont toujours eu ce côté curieux, de chercher, d'essayer d'imaginer de nouvelles choses. Et par rapport à Cavaillé-Coll, bon, c'est difficile de faire le parallèle. Cavaillé-Coll jouit d'une réputation qui est amplement méritée. Mais Cavaillé était fils et petit-fils de facteur d'orgue. Il obéissait à une tradition. Les Puget, eux, Théodore Puget à l'origine était horloger. Horloger, il est devenu facteur d'orgue, donc... Ils ont appris sur le tas, alors ils font des choses pas forcément comme les font les autres. Et des fois c'est moins bien, mais des fois aussi on a des surprises très agréables et des choses beaucoup plus intéressantes que ce qui est dans la norme, on va dire.
Mais il y a un côté très scientifique dans la facture d'orgue.
Il y a à la fois un côté scientifique et en même temps, c'est vrai, un côté assez empirique aussi. Et puis une question, je dirais, de goût musical. Et c'est vrai aussi que les Puget, par un, il y a eu quatre directeurs de la manufacture, étaient tous organistes. Donc sur les quatre, il y avait trois organistes. Et le fait de jouer de l'orgue, ça aide. Par exemple, il y a Au niveau du confort, les consoles de Puget sont souvent plus confortables que les consoles de Cavaillet qui n'étaient pas organiste lui. Et voilà, donc on trouve comme ça des choses intéressantes et justement à mettre en rapport avec une facture plus classique, plus officielle.
Et vous-même, je crois, vous vous intéressez beaucoup à la facture d'orgue.
Oui, je m'y suis intéressé. Je m'y intéresse toujours. J'ai travaillé pendant 4 ans chez divers facteurs d'orgue. Et actuellement, je travaille aussi assez régulièrement en collaboration, surtout pour des conceptions d'instruments neufs. Ça m'intéresse beaucoup, oui, mais je suis plus, je vais plus trop me salir les doigts dans la poussière des instruments. Sauf ici, peut-être, parce que comme l'orgue n'est pas tout jeune, il a été construit donc il y a 134 ans. Il n'a jamais été restauré depuis. Donc, il faut régulièrement mettre les mains dans le cambouis pour aller réparer les petites pannes. Il y a un facteur d'orgue qui l'entretient, qui vient 3 fois par an, mais ça nécessite aussi quelques petits entretiens supplémentaires.
Alors, nous sommes ici, donc, je disais, à la tribune, et vous avez les pieds sur le pédalier. Vous nous expliquez un petit peu.
Alors, bon, en l'occurrence, au tor, donc, l'orgue a 3 claviers qu'on joue à la main, avec ses 2 mains, mais comme tous les orgues, ou presque tous les orgues, on a aussi un clavier au pied qu'on joue avec ses 2 pieds.
Et je vois ici, vous avez ce sont des manettes qu'on tire. Alors, qu'est-ce que je vois écrit? Doublette, tierce, clairon, clarinette, pavillon. L'orgue, c'est un orchestre symphonique?
Oui, c'est un petit peu comme un orchestre. Et puis, les petites manettes, les petits tirants dont vous parlez, c'est ce qu'on appelle des jeux. C'est l'équivalent des musiciens de l'orchestre.
Là, nous entendons, c'est la soufflerie de l'orgue.
Oui, tout à fait, c'est la soufflerie. L'orgue est un instrument à vent et à clavier. Il a besoin d'air, donc il y a un ventilateur électrique qui pulse de l'air dans des soufflets, dans des grands soufflets. Et c'est cet air qui permet au tuyau de jouer.
Cet orgue, est-ce que vous pourriez nous le décrire un petit peu, nous en parler? Il se présente en 3 parties, je crois.
Oui, fait assez rare, il est en 3 parties. C'est une volonté de l'architecte de l'église. Il y a eu de grands travaux de restauration de l'église et de réaménagement de l'église dans les années 70, entre 1870 et 1876. Et l'architecte, c'est le hasard, mais s'appelait Bach. C'est l'architecte Henri Bach à qui on doit l'église de Jésus, par exemple. Et il avait souhaité que l'orgue ne masque pas les 2 fenêtres du fond de l'église, parce que l'église est assez sombre. Et donc les Puget ont conçu un buffet en 3 parties pour préserver justement les 2 sources de lumière que sont les 2 vitraux du fond de la nef.
Vous êtes là à quel moment? Quand est-ce qu'on peut venir vous rencontrer ici?
Avant la messe du soir, le samedi. Il y a une messe tous les samedis à 18h30 et donc je joue pour cette messe. Donc j'arrive un petit peu avant, je repars après. Ou en semaine du reste, j'habite pas très loin. Donc c'est assez facile de venir voir l'orgue du tor si on veut venir le voir.
Et où sont vos chaussures? Est-ce que vous avez des souliers d'orgue?
Alors moi, j'ai pris l'habitude, je suis très distrait, donc j'ai pris l'habitude de jouer avec ce que j'ai au pied. Ça m'est arrivé plusieurs fois de partir en concert en oubliant des chaussures, c'est très gênant. Donc bon, je joue en général avec ce que j'ai au pied.
Il n'y a pas d'attachement particulier, une paire de chaussures, de sandales, toutes usagées, toutes trouées?
Non, mais je pense d'ailleurs, je pense que certains diraient que ce n'est pas bien, ils ont certainement raison. Mais bon, je fonctionne comme ça depuis longtemps, donc voilà.
Il vous arrive de venir jouer ici, alors par exemple en pleine nuit, quand il n'y a personne ?
Ça m'est arrivé une fois, je n'ai plus jamais recommencé. Parce que l'église est... Et les murs de l'église sont mitoyens avec les maisons de qui sont de part et d'autre. Et je me souviens qu'une nuit, à 1h du matin, il y avait un boulanger à l'époque à côté et qui est arrivé pas très content, puisque je l'avais tiré de son sommeil alors qu'il se levait 2 heures après pour aller faire son pain. Voilà, donc on évite de jouer le soir ici. Autrement, c'est effectivement très agréable d'entendre un orgue ou de jouer de l'orgue dans l'obscurité.
Ce jour-là, Jean-Claude Guidarini a prêté sa tribune à Virgile Monin, un jeune organiste. Écoutez-le, il nous raconte sa rencontre avec l'instrument.
Je l'ai d'abord vu, c'est d'abord l'aspect visuel qui m'a impressionné. C'était tout simplement à la télévision, voilà. Donc je ne me rappelle plus ce qui était joué, mais je me souviens donc c'était une console à 3 claviers. Et donc ça m'avait, l'aspect visuel tout de suite m'avait fasciné, voilà.
Vous aviez quel âge à peu près ?
Oh, je ne peux pas vous le dire, j'avais 6-7 ans, peut-être même moins.
Et vous êtes dit que vous aimeriez être derrière cet instrument ?
Oui, voilà, il y a quelque chose qui m'a intrigué tout d'abord. Je ne savais pas ce que c'était, et puis oui, tout de suite, j'ai voulu essayer.
C'est comme ça que vous avez commencé vos études musicales ?
J'étais dans une région un peu défavorisée au niveau orgue, donc finalement j'ai débuté par le piano, parce que bon, j'avais rencontré un organiste qui m'avait dit « il faut que tu fasses du piano ». Donc j'ai fait du piano pendant du coup au moins 8 ou 9 ans, et finalement j'ai pu, lorsque j'ai fait mes études dans une grande ville qui était Rennes à l'époque, j'ai enfin pu prendre des cours d'orgue sérieusement, on va dire.
Est-ce qu'on pourrait parler d'une vocation ?
Oui, sans doute.
Alors vous devez certainement vous souvenir de la première fois où vous avez été devant l'instrument, les mains prêtes à se placer sur le clavier.
Oui, tout à fait. En fait, j'ai eu la chance d'être au collège dans un établissement qui possédait un orgue dans la chapelle. C'était régi par une communauté de religieuses et tout de suite, elles m'ont permis de pouvoir accéder à cet orgue. Donc finalement, sans savoir en jouer, puisque je n'avais pas encore pris de cours, j'ai eu la chance de pouvoir essayer, de pouvoir... Et tout de suite, oui, c'était quelque chose de très particulier de se retrouver devant cet instrument... Déjà par sa place, vu qu'il était, il était dans la chapelle, et puis autant un collège c'est un environnement bruyant, on va dire, et se retrouver là dans le silence et puis devant cet instrument, c'était déjà à l'époque, c'était pour moi quelque chose de très particulier.
Pour le passant, attiré par la rumeur de l'orgue, entendue bien avant d'être dans l'église, ces moments musicaux sont avant tout surprises. Et pour le mélomane et l'amateur averti, ils sont tout d'abord offrandes musicales.
Les concerts d'orgue, les moments musicaux, il y a un public de l'orgue à Toulouse, puisque Toulouse a un patrimoine organistique assez impressionnant, eh bien ce petit monde de l'orgue sait qu'il y a ces moments. Il y a ce public-là qui est déjà concerné. Ensuite, c'est vrai que comme l'église est sur la rue, il y a tout un public qui va rentrer parce qu'il entendra. il entendra l'orgue depuis la rue et, un peu curieux, il va venir prendre un bout de musique et peut-être avec le bout de musique, il va entrer dans ce moment musical et le fait de le vivre dans ce lieu peut participer aussi à une découverte ou un éveil spirituel.
Le monde de l'orgue, dont les organistes que les fidèles mélomanes se s'étaient accueillis par Notre-Dame du Thor. Celle qui chanta les merveilles de Dieu ne peut manquer, selon les mots du Bergalois, de se réjouir d'abriter cette louange et de bénir encore cette liesse qui se prolongera bien au-delà de ces moments musicaux. Thank you.